talent congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Bien, nous sommes en direct du PNMLS ici à Kinshasa, à l'occasion de la Journée mondiale du Sida, pour une émission spéciale au Capi Service, où nous allons parler du droit à la santé. C'est d'ailleurs le thème retenu pour la célébration ce 1er décembre 2017 de la Journée mondiale du Sida. Selon un récent rapport de l'ONU Sida, entre 2000 et 2017, l'accès au traitement antirétroviral a considérablement augmenté. Cependant, dans de nombreux pays, dont la République démocratique du Congo, elles sont nombreuses, ces PVVIH, parmi lesquels les jeunes qui ne bénéficient pas des traitements contre la maladie. Alors, que faire pour garantir le droit à la santé à tout le monde et particulièrement au PVVIH, un droit qui fait d'ailleurs partie des ODD, des Objectifs de Développement Durable? Eh bien, nous allons parler de toutes ces questions dans cette émission de La Vie au Quotidien. Nous avons sur ce plateau Dr Bernard Bosiki, le secrétaire exécutif adjoint du PNMLS. Et laissez-moi vous dire qu'à l'extérieur, il y a toute une ambiance de fête ici. Il y a des stands à l'extérieur avec un orchestre qui est en train de jouer déjà. Il y a du monde, je vous assure, au PNMLS aujourd'hui. Et de l'autre côté, dans la grande salle des conférences, la cérémonie officielle sera lancée dans quelques instants par le ministre de la Santé. Et les invités arrivent déjà. Eh bien, mais nous commençons déjà notre programme. Docteur Bernard Bosiki, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons, le thème de la célébration de la Journée mondiale de la santé aujourd'hui, c'est le droit à la santé. Alors, docteur, quand on parle du droit à la santé, à quoi fait-on allusion?
La santé...
Veuillez rapprocher votre micro de la bouche.
Voilà. La santé est un droit de tout le monde. Tout le monde doit accéder aux soins de santé, aux soins de santé de qualité, à tout moment, et même aux innovations actuelle. Donc, c'est pas un privilège pour les uns et pour les autres.
Oui.
C'est pour cela que, pour nous, en RDC, nous avons étendu ces thèmes que la communauté internationale avait retenus, droit à la santé. Pour bien spécifier cela, nous disons que tout le monde a le droit de se faire dépister. Donc, tous pour un dépistage. Donc, il faut que nous puissions connaître notre statut sérologique. Mmh. Et une fois qu'on est séropositif, nous devons accéder aux ARV. Donc, tous aussi pour l'accès aux ARV, toute personne séropositive a le droit de bénéficier des antirétroviraux sans condition ni biologique, ni économique, ni culturelle, ni même par rapport à l'âge. C'est tout le monde qui a accès. Et puis de deux, oui. De trois, tout le monde puisse accéder à la charge virale pour savoir si les médicaments qu'il a pris, ça fonctionnait et qu'on ne retrouve plus, on ne voit plus le virus dans son corps. C'est ça la suppression de la charge virale. Et c'est sans discrimination, c'est ça le sens que nous donnons en RDC au droit à la santé pour cette campagne qui démarre aujourd'hui pour l'édition 2017.
Alors, docteur Bernard Bosiki, est-ce qu'on peut dire que le droit à la santé est garanti en RDC aujourd'hui pour toutes les PVVIH?
Bon, je dis que il y a quelques années, vers 2010, il y avait à peu près 8% des PVV qui avaient accès aux ARV. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 53% de couverture des besoins en ARV. Les efforts sont en train de se faire pour arriver à couvrir les gaps. Pour répondre à votre question,
oui.
Il y a un gap de près de 47% qu'il faut arriver à couvrir. Ça nécessite les moyens, ça nécessite de la mobilisation de tout le monde. Ça nécessite aussi que ceux qui sont supposés séropositifs,
oui,
s'effacent et dépistés. Parce que dans les 47%-là, ils ne sont pas parqués quelque part. Non.
Et aujourd'hui, vous avez dit, nous sommes à combien de pourcentage?
À 53%.
53%.
Oui.
D'accord. On est déjà à 53%, donc...
Je dirais même, c'est plutôt à 70, hein, puisqu'on est très loin, 70% plutôt. Puisque nous sommes autour de 230 000 sur 370-400 qui doivent accéder aux ARV. Mais le plus grand problème, c'est de connaître ces gens-là, l'identification de ces gens-là. Et l'identification s'est faite par les dépistages. Peut-être ici, il y a des personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Et ils sont parmi ces gens-là que nous devons atteindre.
Que nous devons atteindre et qui doivent aller se faire dépister.
Exactement.
D'accord, je reviens à vous dans tout à l'heure, docteur Bernard Bosiki. Il est temps de donner la parole à Toussaint Ngundoli, qui est le coordonnateur de Jeunesse Espoir. Voilà, vous pouvez lui donner le micro. Bonjour Toussaint.
Oui, bonjour.
Alors, on parle de... Non, vous êtes encore là avec nous, docteur. Ne partez pas encore. Alors Toussaint, dites-nous, qu'est-ce que vous faites au niveau de Jeunesse Espoir?
Oui, Jeunesse Espoir, c'est une association... qui encadre les jeunes vivant avec le VIH, comme objectif de lutter contre l'auto-stigmatisation et discrimination, et chercher aussi une prise en charge de qualité avec les activités de recherche des perdus de vie, visite à domicile et mobilisation des ressources. C'est un peu ça.
Voilà, c'est cela que fait votre organisation. Je vous rappelle que nous sommes en direct du PNMLS ici à Kinshasa. Et PNMLS est transformé aujourd'hui c'est une fête ici. Hein. Donc il y a des stands à l'extérieur. Plusieurs organisations qui militent dans la lutte contre le VIH-SIDA sont représentées ici. Et la cérémonie officielle avec le ministre va commencer tout à l'heure dans la grande salle des conférences. Et nous, ici au Capi Service, nous poursuivons notre émission. Alors dites-nous, Toussaint Ngundoli, par rapport au thème, le droit à la santé, oui. Est-ce qu'on peut dire que ce droit est aujourd'hui garanti ici en République démocratique du Congo?
Bon, les droits, il y a les droits, parce que les PVV aujourd'hui sont mis sous ARV gratuitement. Ils ont accès au dépistage, accès à la charge virale, mais... Tout ça, il y a toujours des problèmes qui s'imposent parce que c'est pas totalement. Il y a une partie qui est satisfaite et une autre partie qui n'est pas encore satisfaite.
D'accord. À côté de vous, nous avons Rachel Ndaya. Kalanda, voilà. Rachel Ndaya Kalanda, coordonnatrice nationale du RACOJ, qui est le réseau d'associations congolaises et jeunes pour la lutte contre le VIH-SIDA. Qu'est-ce que vous faites exactement au niveau du RACOJ?
Merci beaucoup, Jody. Le RACOJ, c'est une plateforme nationale qui regroupe autant des associations de jeunes dans la lutte contre le SIDA. Et le RACOJ a une mission spéciale dans la prévention du VIH-SIDA en milieu des jeunes. Donc, c'est la sensibilisation, permettre aux jeunes d'accéder aux services de santé. Donc là, je vois précisément le dépistage et la prise en charge des IST.
Voilà, on a parlé parmi les droits à la santé, on a parlé du dépistage évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la stratégie que vous faites pour amener les jeunes à se faire dépister?
Voilà, nous avons autant de stratégies pour le dépistage des adolescents et des jeunes. Il y a les CIK, qui sont des centres d'écoute et d'information conviviales aux adolescents et jeunes, où il y a des jeunes qui arrivent pour avoir des informations par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Et c'est à ces endroits-là que nous les référons au centre avec lequel nous travaillons, donc le centre de santé avec lequel nous travaillons pour se faire dépister. Mais je voulais souligner ici que nous avons un problème par rapport au dépistage.
Lequel?
Parce que nous parlons de droit à la santé, n'est pas tellement effectif dans notre pays parce que nous avons la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-SIDA, qui jusqu'à présent qui n'accepte pas assez que les mineurs puissent se faire dépister. Donc nous sommes en plein plaidoyer pour le moment pour la modification de cette loi dans ses articles 37 et 39 qui parlent de dépistage et de résultats. Donc dès que
la loi autorise,
pour que cette loi puisse permettre à ce que tous les jeunes, les adolescents puissent se faire dépister, parce que la loi autorise juste à 18 ans. Donc, il faut avoir l'âge de la majorité pour se faire dépister, alors que le sida n'attend pas l'âge pour atteindre la personne. Voilà.
D'accord. Nous avons également parmi nos panélistes, nos invités, je veux dire, Benjamin Bouyemere, coordonnateur de YouFIM, Forum Jeunes ODD. Bonjour Benjamin.
Bonjour cher Jody.
Alors parlez-nous de Forum Jeunes ODD, qu'est-ce que vous faites exactement?
En fait, nous sommes une structure qui fait la promotion des objectifs de développement durable à milieu de jeunes. Et vous allez vous rendre compte que lors des consultations pour avoir l'agenda pour 2015, depuis 2012, les aspects liés au droit à la santé ont été en second lieu après les droits à l'éducation. Et il suppose que nous avons porté un focus sur l'ODD 3 qui est consacré à la santé et au bien-être. Et il suppose que notre façon à nous de faire, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent avoir l'accès, parce que notre mission, c'est inspirer, impliquer et informer. Inspirer, impliquer, informer les jeunes sur tout ce qui est comme question relative à eux. Et à travers cela, nous avons pu mettre en place des mécanismes pour faire en sorte que les jeunes soient en train de s'approprier l'information, parce que plus ils ont l'info, plus ils savent s'impliquer sur le terrain. Et nous avons une approche qu'on appelle l'approche par décentralisation, où les jeunes sont en train de s'impliquer au niveau de la base en créant les changements qu'ils veulent, et c'est en connivence avec les autorités locales. Donc on a mis en place des différents club de jeunes dans différentes communes, rattachés à certaines communes, bien sûr, pour faire en sorte qu'ils soient en train de jouer un rôle tant soit peu avec les autorités locales, tout comme avec des acteurs au niveau local. Et ça permet à tout prix à ce que les jeunes soient en train de s'approprier. Bon, très souvent, nous avons constaté que nos autorités locales ne sont pas trop à cheval avec certains agendas qui sont pris à un niveau international. Et nous, étant dans ces contextes-là, nous prenons les agendas internationaux, on les ramène dans un contexte où facilement ces agendas peuvent être mis en œuvre au niveau local et faire en sorte qu'il y ait une grande et forte appropriation et des autorités et des acteurs au niveau local et surtout des jeunes. Et ça crée une interaction assez effective pour faire en sorte que nous allions dans le sens de la stratégie que la commune ou plutôt les autorités locales ont mis en place.
Mais Benjamin, on a l'impression qu'on parle du sida, mais les jeunes affichent toujours des comportements à risque. Qu'est-ce qui est à la base de cela?
Vous savez,
ils ont toujours des comportements à risque.
Vous savez, la jeunesse, c'est d'abord la curiosité, en fait. Et la curiosité veut que la jeunesse soit en train d'être amenée de savoir qu'est-ce qu'il y a d'abord de l'autre côté. C'est vrai qu'à un moment donné, l'information existe. Mais il y a aussi les soucis de savoir. Mais bon, on nous informe, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ce qui fait que ils ont tendance à y aller. Entre autres, c'est la faiblesse qui se retrouve au niveau des adolescents et jeunes. C'est la moindre appropriation du danger, en fait. Le danger, il est là et facilement, ils ont tendance à y aller, parce qu'évidemment, vous allez vous rendre compte, grâce à certaines avancées au niveau des traitements, au niveau médical, on ne voit plus les personnes vivant avec le VIH SIDA qui sont maigrichonnes. Vous voyez,
ils sont bien pour
en bonne santé, comme vous avez vu nos amis, ils sont en bonne santé.
D'accord.
Et les jeunes se disent que non, attendez là, mais ils sont en bonne santé.
Ouais.
Mais attends, donc le sida, est-ce qu'il est un mythe ou c'est vraiment une réalité? Ce qui fait que nous avons vraiment intérêt à interagir avec les jeunes pour que
c'est beaucoup plus un problème d'ignorance.
Pas ignorance, mais aussi l'ignorance évidemment est aussi partie prenante parmi les faiblesses, mais aussi la moindre appropriation du danger. Donc
ils ne mesurent pas les dangers
en fait. Ils se disent que non, le sida, bon. Si la personne qui a le VIH/SIDA est en bonne santé, mais en quoi c'est un danger? Bon, c'est la moindre perception du danger qui existe aussi à ce stade-là. Donc, à nous d'amplifier vraiment les campagnes d'information pour disponibiliser l'information comme il se doit, quoi.
D'accord. Merci de suivre cette émission spéciale Okapi Service en direct du PNMLS à Kinshasa à l'occasion de la journée mondiale du sida. Je vous le disais tout à l'heure, le PNMLS est transformé en une grande foire aujourd'hui. Il y a des stands à l'extérieur. Plusieurs organisations qui militent dans la lutte contre le VIH/SIDA sont là représentées. Il y a une cérémonie officielle qui va démarrer tout à l'heure avec le ministre de la Santé dans la grande salle des conférences. Et nous, au Capi Service, voilà, dans cette salle, nous sommes là avec les jeunes. Nous sommes là avec les jeunes. Chers participants, nous sommes en direct du PNMLS, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Et aujourd'hui, c'est la célébration de la journée mondiale du sida sous le thème « Droit à la santé ». Alors, madame était en train de poser une question par rapport au droit à la santé. Est-ce qu'on peut lui... Tati, le micro? pouvez lui remettre le micro. Elle va encore reposer sa question. Allez-y.
Je me représente, Betty Lumba, la chargée de plaidoyer Jeunesse Espoir. Par rapport à notre thème, droit à la santé, concilier droit à la santé par rapport à santé de qualité. Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, par rapport à la journée et par rapport aux objectifs de chacun de vos organisations, comment est-ce que vous faites pour pouvoir arriver à l'objectif 90-90-90, voilà.
D'accord, la question est adressée à qui?
À tout le monde.
À tout le monde. On commence par notre ami Toussaint, coordonnateur de Jeunesse Espoir.
Oui, par rapport à l'accès des qualités des soins, nous, Jeunesse Espoir, nous sommes lancés sur la sensibilisation des pères entre les jeunes vivant avec le VIH. Ils sont dans les groupes d'autosupport pour essayer d'identifier tous les problèmes liés à leurs problèmes de santé. S'il y a le retir par rapport aux médicaments et s'il y a les problèmes liés à la charge virale. Donc, c'est ça notre souci de tous les jours avec les jeunes vivant avec le VIH pour améliorer leur qualité de soins VIH.
D'accord. Rachel, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question?
Oui, je vais compléter tel que j'étais en train de dire parce que nous parlons de droit à la santé, qui est le thème d'aujourd'hui. En ce qui concerne le RACOS, j'avais dit, nous sommes dans la prévention. Droit à la santé, on mène un plaidoyer pour que tout le monde puisse avoir accès au dépistage, notamment les adolescents.
Et l'accès aux soins également.
Et l'accès aux soins, parce que non seulement vous devez vous faire dépister, mais s'il y a des cas positifs, il faut que ce dernier soit mis sous traitement.
Oui.
Voilà.
Voilà. Droit à la santé, qu'est-ce que cela implique Benjamin?
Droit à la santé, c'est consacré à travers ODD 3. Donc, on ne sort pas des ODD. Donc, carrément, c'est consacré dans ODD 3 et ODD 3 l'énoncé comme suite. Bonne santé et bien-être. Ça veut dire avoir accès à tous les services relatifs, avoir les moyens appropriés pour le faire, vivre dans un contexte qui permet à ce que tout un chacun puisse avoir accès à la santé tel qu'il se doit. Et nous, maintenant, les actions que nous menons, parce que nous avons un focus, nous faisons la promotion des ODD, mais nous avons un focus sur les trois, donc bien-être, bonne santé et bien-être. Et n'oublions pas que la santé n'est pas seulement le VIH-SIDA. Il y a la planification familiale, il y a la malaria, il y a la tuberculose. C'est tout ça, en fait. Toutes les questions de santé que nous avons entendu parler depuis tout temps, VIH, malaria, tuberculose, sont ramenées dans ODD 3. Maintenant, à tous les parties prenantes de savoir quelle est votre thématique à vous. Est-ce que vous êtes dans la malaria? Est-ce que vous êtes dans la tuberculose? Est-ce que vous êtes dans le VIH? Est-ce que vous êtes dans la santé de la reproduction? Mais ce qui fait que nous sommes pleinement dedans. Non, ne voyons pas seulement le VIH, mais on a aussi des aspects liés, comme je venais de les annoncer tantôt là. Parce qu'écoutez, si déjà une femme ne sait pas espacer ses enfants, elle peut tomber malade. Tomber malade, ça veut dire que une grossesse qui peut être néfaste à sa santé, elle peut perdre sa vie. Il faut aussi que cette femme-là puisse avoir accès à des services appropriés. Parce que s'il n'y a pas une main d'œuvre qualifiée pour pouvoir l'appuyer et l'amener jusqu'à bon port pour que l'enfant sorte, c'est un problème. Donc, droit à la santé, ça regorge beaucoup d'éléments où les aspects liés au droit, les aspects liés à l'accès, les aspects liés à l'égalité des chances.
Et ça implique aussi la disponibilité des infrastructures.
Évidemment.
Et des personnels de santé.
Et les routes même. Et les routes. Parce qu'une femme qui est en voie, par exemple, de vouloir accoucher et que la route pour pouvoir l'amener à l'hôpital est chaotique. Imaginez que le véhicule est arrêté parce que la route est chaotique et on perd du temps, elle peut perdre sa vie avant qu'on puisse arriver à l'hôpital. Donc, c'est tout ça que nous pouvons appeler droit à la santé.
C'est tout un ensemble.
C'est tout un ensemble. Voilà. Infrastructure, les droits, donc c'est beaucoup en fait en soi.
Voilà, il y a aussi la qualité des soins, on parle aussi de la qualité des soins. Est-ce qu'on peut dire que les soins, on offre au PVVIH des soins de qualité ici dans notre pays?
Oui, par rapport à la qualité des soins, il y a quand même les avancées par rapport à cela. Mais ce que nous déplorons, c'est il y a le problème de rupture partout, dans tous les coins de la RDC.
Les ruptures de quoi?
Des ARV, les ruptures même en étant des dépistages, même à la charge virale. Donc les PVV prennent les médicaments, mais ils ne sont pas accès à la charge virale parce qu'il n'y a pas les machines de la charge virale qui posent problème.
Et qu'est-ce qu'on entend par la charge virale pour ceux-là qui...
Oui, la charge virale, c'est la quantité du virus qui se présente dans le sang.
D'accord.
Oui. Donc, c'est un peu ça. Par rapport à la qualité, il y a toujours des problèmes qui s'imposent. C'est pourquoi nous appelons les partenaires d'appui et les autorités politico-administratives de disponibiliser les médicaments pour les PVV et la charge virale qui soit accessible et gratuite pour tous.
Que faire pour garantir le droit à la santé des PVVIH en République démocratique du Congo? Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur, votre nom et puis la question.
Ouais, Fiston Pembe, le coordonnateur du CICAC Le Mort. Moi, je voulais justement dire à ce qui concerne l'appellation. Parce que l'appellation VIH-SIDA, le mot SIDA là, vraiment, vit aujourd'hui. Le VIH est devenu comme une maladie chronique, comme la diabète. Ça veut dire quoi? Quand vous parlez à un jeune, le SIDA là, et c'est vraiment une barrière pour nous. Et quand il attend que SIDA, non, je ne fais pas. Il sait que, c'est ainsi que je voulais dire. À ce qui concerne l'appellation, vraiment, on devait vraiment beaucoup parler sur l'appellation là de mot SIDA. Parce que, dès les années coulées, 1990, le SIDA là, qui aujourd'hui vit le traitement est là déjà permanent. On voulait vraiment voir ce qui concerne.
Alors, je comprends pas votre préoccupation. Les jeunes ne veulent plus entendre parler du mot SIDA.
L'appellation là, ça devient comme une barrière, l'appellation.
Une barrière SIDA, à quoi? Oui.
Vous laissez au dépistage.
L'accès, oui. Oui. Vous allez suivre une chanson que Jeunesse Espoir, l'Exus Légal et Sista Beki qui viennent de produire pour dire à la population que le VIH n'est pas le SIDA. VIH c'est la SIDATE. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui ont chanté, ce sont les personnes qui vont avec le VIH.
Quelle est la différence entre le VIH et le SIDA?
Le VIH, c'est le microbe, mais le VIH, c'est le stade de la maladie, du stade de SIDA. Donc, le SIDA, c'est la maladie. Le VIH, c'est le microbe.
Donc, on peut avoir le microbe sans avoir encore développé le SIDA.
Voilà. Donc, le VIH, tel que Christian l'a dit, c'est le virus, en fait, qui entre dans le corps. Tu peux avoir le virus dans ton sang, mais tu n'as pas encore développé la maladie. La maladie, c'est ça, le stade SIDA, où il y a de signes qui se manifestent. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut faire le dépistage un peu tôt pour être pris en charge tôt. Parce que dès que tu es déjà au niveau du stade SIDA, cela, ça devient difficile pour qu'on puisse te prendre en charge pour que l'organisme puisse supporter les ARV.
Alors, d'après notre ami, les jeunes ne veulent plus entendre parler. Ils veulent pas entendre parler du SIDA.
Il y a aussi un aspect. C'est l'approche, en fait. C'est l'approche. Il faut que ton approche soit stémaille, quoi. Il faut que ton approche soit un plus sexy pour permettre aux gars ou à l'Afrique qui soit à côté. Non, mais c'est vrai, quoi. Parce que, écoutez.
Alors, comment, par exemple, l'aborder pour le convaincre à aller se faire dépister?
Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est en colère et que vous lui amenez une histoire qui va encore le renforcer dans sa colère. Non. Il faut savoir, dans la pré-éducation, il y a des méthodes que l'on apprend pour aborder quelqu'un, pour faire en sorte que la personne devant moi soit à même de m'écouter et de trouver la discussion intéressante. Écoutez, le VIH-SIDA, c'est la sexualité. Et la sexualité, c'est tout ce qui est intéressant pour les jeunes. Je vous dis vrai, quand tu commences par, tu as une copine, mais je t'ai dit, l'intérêt commence. Et quand tu finis par le SIDA...
Tu as un copain?
Non, mais écoute, la sexualité est intéressante. Et les jeunes aiment la sexualité. Oui. Raison pour laquelle ils ont besoin de plus d'informations possibles. Et je t'ai dit, ça dépend de l'approche. Parce que quand tu commences par SIDA, ça lui fait peur d'emblée, quoi. D'où il y a des mécanismes par lesquels il faut aborder la personne. Et facilement, la personne a la loisivité de pouvoir te disposer son temps. Et il oublie qu'il y a un programme qu'il est en train de poursuivre après. Et il t'écoute jusqu'à la fin. Moi, je pense que c'est une question d'approche aussi.
Voilà, c'est une question d'approche. Une autre question. On va prendre deux, trois dernières questions avant de terminer, Rachel. Deux, trois questions et puis nous allons clôturer.
C'est Pistis Mbambi, membre effectif de UFIM, Forum Jeunes et ODD. En fait, ma préoccupation, elle est celle-ci. Vous savez, aujourd'hui, la masse juvénile, congolaise en particulier, est nantie des informations relatives au sport. Sûr et certain, c'est parce qu'ils ont ces informations-là en permanence. Allez-y comprendre par là que aujourd'hui, je me pose la question, faudrait-on entendre dans ces pays que nous nous ayons des journées comme celle-ci, chaque 1er décembre, pour parler du VIH-SIDA, je ne sais pas, entre guillemets. Ici, j'en appelle à la responsabilité de tous ceux qui dirigent. En fait, nous devons avoir des activités permanentes. Et je m'adresse aussi à ceux qui sont là, pour que ces activités aient lieu. La jeunesse a besoin de ces informations-là.
Je vais profiter. On va donner la parole à Rachel, elle va répondre avant d'aller faire son intervention. On l'attend de l'autre côté.
En fait, cette journée pour nous marque une réflexion pour savoir où en sommes-nous. Parce que je vous garantis, mon cher ami, les activités sont toujours en permanence. Quand je parle de CIK, je parle de club de jeunes, donc ce sont des activités qui sont en permanence pour la sensibilisation de jeunes. Et ce sont des endroits qui permettent...
Mais ça ne se fait pas sentir.
Non, le problème, le RACOJ, c'est vrai, il est au niveau national. Ici, à Kinshasa, on a des Seika, il y a Bumbu, il y a Kimbangu, il y a Selemba, il y a Kimbanseke. Les moyens sont aussi limités pour avoir de centres, des endroits où il faut abriter les Seika.
Nous, les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir toutes ces informations?
Il faut arriver au niveau des centres pour avoir ces informations.
Voilà, merci beaucoup Rachel, que nous allons rapidement libérer parce qu'elle doit aller faire sa présentation au cours de la cérémonie officielle de célébration de la journée mondiale du SIDA. Voilà, nous avons une dernière question, allez-y.
Oui, c'est Jonathan Makolou, du journal Espoir, point focal de l'Est de Kinshasa. Je veux juste savoir, pourrons-nous savoir quel est le suffrage ou le quota actuel de jeunes dépistés et combien de jeunes qui sont au traitement?
Voilà. On commence avec vous, Toussaint.
Bon, jusque-là, les chiffres n'est pas connu parce que il faut demander la question au programme qui sont censés à connaître l'effectif de ceux qui sont déjà séropositifs et ceux qui ne l'ont pas.
D'accord. Et qu'est-ce que Benjamin dira par rapport à cette question?
Évidemment, la question, c'est qu'il est arrivé un temps où on a dit que le VIH-SIDA s'est féminisé, s'est juvénilisé. Et donc, ça voulait dire que c'est beaucoup plus les femmes, c'est beaucoup plus les jeunes qui étaient victimes du VIH-SIDA. Bon, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on continue, de par le monde entier, on continue à compter 5 à 6 000 infections par jour, de par le monde entier. Mais je pense que les activités qui se déploient de par le monde entier, par exemple, disons, si on doit se ramener chez nous, constitue aussi un frein pour pouvoir réduire cette tendance à la montée effective du virus et plutôt de la propension VIH-SIDA. Et je pense que aujourd'hui, comme Toussaint l'a dit, bon, tantôt là, on a parlé près de 250 000 personnes sous ARV aujourd'hui. Sur 300 quelques mille pour la RDC, je pense qu'il y a des grandes avancées et bon nombre de jeunes sont comptés parmi ces gens-là. Donc c'est vrai qu'on n'a pas des chiffres, des statistiques beaucoup plus spécifiques sur les jeunes ou adolescents et jeunes. Mais je pense que si on fouillait encore davantage, on va tomber sur des statistiques quant à ceux. Mais globalement, on sait que c'est un peu plus de 200 000 personnes, c'est 300 000 quelques personnes qui sont malades VIH-SIDA, qui sont sous ARV aujourd'hui.
Voilà, Tati m'autorise à prendre encore combien de questions? Une seule question.
Ok.
Donc, allez-y.
Ok, par rapport au complément de la réponse, par rapport aux jeunes qui demandaient l'information, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le VIH est multisectoriel. C'est-à-dire que tous les secteurs sont impliqués dans le VIH-SIDA. À mon avis, aujourd'hui déjà, au niveau de l'université, au premier graduat, on commence à enseigner les étudiants la notion du VIH-SIDA. Ça fait partie de ce que nous appelons la multisectoralité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser aux ONG ou à une frange de groupes la responsabilité. Ça doit être dans tous les secteurs. C'est pour cela, même aujourd'hui, les gens, les ministres, tous les ministres sont impliqués dans son domaine à faire du VIH-SIDA dans son domaine. Voilà la réponse où les jeunes peuvent se retrouver au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, où on a déjà commencé à parler du VIH-SIDA. Mais c'est encore au niveau embryonnaire. Par rapport aux journées mondiales du VIH-SIDA, c'est une journée qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de booster et de motiver les gens. Aujourd'hui, nous passons en direct sur Radio Okapi, c'est parce que c'est une journée spéciale. Et on le fait pour que les gens puissent connaître exactement qu'est-ce que le VIH et se rappeler de ce que ça se passe. Par rapport à la notion du SIDA, ça c'est une notion qui nous a été inculquée par rapport à la stigmatisation. Comme vous le savez, le VIH-SIDA, c'est l'une des maladies la plus stigmatisante au monde, après les lèpres. C'est pour dire que si nous faisons le verre sida, nous devons le faire aussi en luttant contre les préjugés et la stigmatisation. En faisant que nous puissions banaliser, mais tout en restant responsable par rapport au verre sida, pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise. Mais il y a des mots, nyama, vous pouvez exploiter ce genre de mots dans le monde de jeunesse. Voilà ma contribution par rapport
pour qualifier, pour parler du VIH. Hein?
Pour parler du VIH.
Nyama.
Les autres disent nyama.
Certains parlent même de mine.
Les autres disent
Agnatimine.
Voilà. Quatre lettres.
Quatre lettres.
Okay.
Voilà. Et, je m'en vais lire quelques réactions des auditeurs sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Toussaint Ngoy nous dit ceci. La prise de conscience des malades est d'une grande importance. Et aussi, le gouvernement doit organiser des rencontres avec ces gens pour les conseils, mode de vie, quand on est malade, et aussi les encouragements des malades. Saint Ngoy Toussaint qui nous a écrit depuis Mbujimaï. Claude Pierre Conga nous dit, pour lutter contre cette calamité, la RDC doit avoir un meilleur programme de prise en charge des PVVIH. Fulgence Mbala de Kinshasa, pour garantir le droit à la santé des personnes infectées du VIH-SIDA, l'État congolais, conjointement avec ONU-SIDA, doivent assurer un accès juste et équitable des PVVIH aux antirétroviraux qui pourraient prolonger ainsi leur vie. Bien, tout ça, des réactions, une réaction par rapport à ce que les internautes ont dit.
Merci à nos spectateurs, téléspectateurs ou
internautes, voilà,
les intervenants
sur la page Facebook.
En tout cas, ils ont bien parlé. C'est ça notre combat de tous les jours. Nous voulons que les jeunes ou les PVV en général puissent être accédés au traitement et avoir la charge virale indétectable. Donc d'ici 2030, qu'on puisse plus parler de morts liées au VIH/SIDA. Donc, c'est un peu ça.
D'accord. On va terminer avec vous, Benjamin Bouyemere.
À mon sens, je pense que les mécanismes existent déjà. C'est juste qu'il faut juste plus de responsabilités dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons les PNMLS, nous avons les gouvernements, nous avons les CNMLS. On a des instances pour prendre des décisions dans le contexte de lutte contre le VIH/SIDA. C'est juste plus de responsabilités. Évidemment, ONU/SIDA est là juste pour appuyer le gouvernement à pouvoir mettre en place des mécanismes et qui lui permet de pouvoir agencer sa lutte comme il se doit, mais c'est beaucoup plus au niveau gouvernemental. Combien on met dans le secteur santé? Au niveau du budget, combien mettons-nous dans le secteur santé? Et dans le secteur santé, combien allouons-nous au secteur VIH/SIDA? Ainsi de suite. Je pense que quand on se pose ce genre de questions, on arrive à l'évidence où est-ce que nous investissons vraiment dans le secteur santé ou pas du tout? Est-ce que c'est que nous investissons, c'est assez, c'est conséquent pour permettre à ce que d'ici 2030, nous puissions avoir nos politiques, nous puissions avoir un contexte de lutte, oui, qui permette à ce que nous ayons zéro décès lié au VIH/SIDA. Je pense que c'est au niveau gouvernement. Donc, c'est à nous de prendre conscience. C'est
merci
à nous de prendre des actions relatives quant à ça.
Alors, rapidement, nous étions en train de parler du droit à la santé, qui est le thème de cette célébration de la Journée mondiale du SIDA. Alors, y a-t-il des questions? Oui, monsieur, donnez-nous votre nom et puis quelle est votre mission?
Ok, merci beaucoup. Je suis monsieur Mafo Lomboma Diedonné, oui, le directeur exécutif de l'action volontaire SIDA à venir des enfants orphelins au Congo. C'est une ONG de lutte contre le VIH et les violences basées sur les genres. Ma question est celle-ci. Je pose la question à la dame qui est justement devant moi.
À Rachel Ndaya.
Ok, exactement. D'accord. Où en êtes-vous avec le plaidoyer sur le dépistage des adolescents? C'est ça ma question. Je vous remercie.
D'accord. Une autre question? Plaidoyer par rapport au dépistage des adolescents? Une autre question dans la salle, oui, monsieur.
Je suis monsieur Mbaki Ndokolo,
oui.
Je suis de même organisation.
D'accord.
Ma question est celle-ci. Est-ce que l'accès au traitement et à la charge virale est vraiment satisfaisante pour tous les PVV?
D'accord, merci pour la question. L'accès au traitement, une autre question dans la salle.
Merci pour la parole.
Ok, on vous appelle comment?
Mombo Kambujon, étudiant à l'université protestante du Congo,
oui,
dans la faculté de droit. Ma question est celle de savoir. Ma question est adressée à maman Rachel Ndaya.
Du Rakoge. Oui.
Et celle de savoir. Une personne, sachant son état séropositif, et se met dans une conduite notoire de façon à transmettre volontairement les virus, est-il soumis à des sanctions? La deuxième.
Qu'est-ce que vous entendez par conduite notoire?
Conduite notoire, donc. Il se lance dans des aventures.
un jeune qui a le sida et qui va avoir lance. Des relations sexuelles avec oui. d'autres jeunes d'autres. Sans protection. Et qui transmet la maladie. Voilà. Merci pour la question. Une autre question? Oui, allez-y.
Bonjour.
Madame. Bonjour.
Je m'appelle Meshak Ouma Chongo. Oui. Je suis du Jeunesse Espoir, chargé de planification et études. Ma question est celle-ci. Je vais poser une question. Je pose une question concernant les ODD.
Oui.
Les ODD 3, droit à la santé. On est où maintenant pour la discrimination concernant les études des objets de développement durable concernant le déroulement de la discrimination ici au niveau de la RDC? C'est ça ma question.
Bien, merci. Alors, Rachel, vous avez la parole et puis les autres intervenants vont répondre. Allez-y. Tati, peux-tu ramener l'autre micro,
d'accord? Ok, merci.
Oui.
La première question, c'est de notre cher ami. Il s'est déplacé. Le nom.
Il n'y a pas de problème, allez-y.
Amapolo.
Oui.
Voilà. Il voulait savoir où nous en sommes avec les plaidoyers par rapport au dépistage des adolescents et jeunes. Jusqu'à présent, nous avons pu organiser un forum avec les députés nationaux. Nous avons réuni un bon nombre de députés nationaux pour que la question soit prise avec beaucoup de considération au niveau du législateur. Parce que ce sont eux qui ont l'habitude de écrire des différentes lois et ce sont encore eux qui peuvent avoir le pouvoir de modifier quand il y a des failles dans cette loi. Donc jusqu'à présent, c'est à cette session, la session en cours, que la loi sera traitée au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'elle soit modifiée. Nous sommes en train de mener un suivi pour que cette modification soit réellement effective.
Afin de permettre le dépistage
des mineurs. Oui, voilà. Parce que...
Les mineurs, à partir de quel âge?
Déjà à partir de 14 ans. C'est ce que nous avons demandé.
D'accord.
Oui, parce que la loi limite à partir de 18 ans. Donc, vous devez avoir l'âge de la majorité pour se faire dépister. Dès que vous n'avez pas de 18 ans, vous ne pouvez pas vous faire dépister.
Et pourtant, à nos jours, à 14 ans, les jeunes ont déjà une vie sexuelle active.
Voilà, des études ont montré, et même le rapport All In, tout récemment publié, a montré que déjà à partir de 10 ans, il y a des jeunes qui sont sexuellement actifs.
Actifs, oui.
Oui, et... À 80% de contamination à VIH, c'est par rapport aux rapports sexuels non protégés. Tout en sachant que ces jeunes sont déjà sexuellement actifs et ils sont vraiment exposés et vulnérables par rapport à la maladie. D'où, si on veut atteindre les objectifs 90-90 d'ici 2030, il faut que ces jeunes soient dépistés, il faut que toute la population se fasse dépister. En l'occurrence, les adolescents et les jeunes, parce qu'ils constituent la majeure partie de la population.
Mais pourquoi vous demandez seulement les jeunes de 14 ans? Et pourtant, vous le dites bien, certains jeunes de moins de 14 ans sont déjà sexuellement actifs.
Vous savez, Jody, il y a eu autant de discussions avec les parlementaires. On a tenu autant de réunions avec les parlementaires pour les convaincre jusqu'à aller à 14 ans. Par rapport aux études et aux rapports qui ont été démontrés. Pour maintenant, c'est à eux de modifier tel que nous sommes en train de demander. Parce que déjà à 10 ans, nous supposons que la PTME, donc la prévention de la transmission de la mère à l'enfant,
oui.
pourra aussi aider à atteindre cette tranche d'âge.
D'accord.
Il y avait une deuxième question.
Une deuxième question, on peut l'adresser à Toussaint. Toussaint peut répondre par rapport à cela. Il est coordonnateur de Jeunesse Espoir.
Ouais,
un jeune qui a la maladie et qui a un comportement qui se permet d'avoir des relations sexuelles non protégées avec d'autres jeunes et comme ça, il peut transmettre de plus en plus la maladie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
D'abord, pour répondre à cette question, je ne crois pas qu'un jeune qui est séropositif et qui se lance à transmettre délibérément le VIH. Parce que avant même de se faire dépister, il est bien conseillé par les conseillers pour accepter son état sérologique si c'est positif et accepter aussi de prendre les ARV et aussi de se protéger pour ne pas se faire s'y réinfecter et aussi d'éviter d'infecter aussi les autres, donc de protéger aussi sa communauté.
Mais il y a des jeunes qui n'ont pas ces informations-là. Oui. Alors, il a la maladie, il se rend compte qu'il a la maladie. Alors, pour se venger, il s'est dit, bon, maintenant, je vais distribuer la maladie aux autres.
Je suis encadreur de jeunes vivant avec le VIH, je n'ai jamais vu de tels comportements. Ils sont bien, bien formés et bien informés.
Rachel, vous voulez dire quelque chose?
Je voudrais compléter tout ça.
Oui.
Notre ami voulait savoir si cette personne est punie
par la loi. Par la loi, voilà.
Voilà. Mm. Ce que je voulais dire, il y a l'article 45 de cette loi même qui porte la protection de personnes vivant avec le VIH qui condamne. Ah, c'est que donc la personne qui transmet volontairement le VIH doit être punie. Et cela est repris dans le code pénal congolais. Donc la personne est punie parce que c'est un crime. Donner volontairement, transmettre volontairement la maladie à la personne tout en sachant son état sérologique.
D'accord. Alors,
maintenant, par rapport à la loi, nous demandons à ce que cet article soit élagué parce que l'intitulé de la loi, c'est la protection de personnes vivant avec le VIH. Mmh. Mais comme elle est déjà reprise dans l'article, comme il est déjà repris dans le code pénal, nous préférons qu'il reste là-bas, que la loi reste uniquement pour la protection de personnes vivant avec le VIH.
D'accord. Benjamin, il y a une question qui vous a été adressée. Vous avez la parole.
Évidemment, c'est par rapport aux ODD et discrimination. Bon, c'est vrai que les ODD, c'est tout un ensemble qui est compact, en fait. Quand on touche un ODD, on doit toucher ipso facto à l'autre. Ce qui fait que quand aujourd'hui on parle des droits à la santé, carrément on touche des aspects liés à l'égalité des chances, qui se rapportent carrément à l'ODD 5. On réduit les inégalités, c'est rapporté à ODD 10. Donc carrément
la discrimination.
Donc quand on parle de la discrimination, ça veut dire on touche à ODD 3 qui est consacré, par exemple aujourd'hui nous sommes consacrés beaucoup plus sur l'ODD 3 dans les aspects liés à la santé, le bien-être. Donc quand on parle de bien-être, vous allez vous rendre compte que on touche carrément à l'égalité des chances, parce qu'il est arrivé un temps où carrément on a discriminé plus les femmes que les hommes à ne pas accéder aux services de santé et de qualité, parce qu'en fait
les professionnels de sexe par exemple.
Oui. Parce qu'on pense que ça vaut pas la peine.
Les gays aussi.
Voilà, par exemple, parce qu'aujourd'hui on a les troisième sexe.
Oui.
On pense que, en fait, il y a plein de discriminations dans tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Les consommateurs de drogues injectables.
Voilà, tout ce monde là.
Oui.
Mais je pense que quand on se lance dans les ODD, il ne faut pas voir de manière isolée un aspect juste des ODD, mais il faut prendre en compte tout un tout. Mais cependant, il y a des focus où il faut vraiment actionner. Par exemple, aujourd'hui, on parle des droits à la santé, mais quand on parle des droits à la santé, carrément, on sait que on est en train de promouvoir les questions sur la santé, mais en même temps, on est en train de promouvoir l'égalité des chances, parce qu'en fait, c'est tout le monde qui a droit à la santé, et les filles et les garçons. On est en train de jouer les aspects liés à la réduction des inégalités, parce qu'en fait, il faut que tout un chacun puisse avoir la possibilité d'avoir accès à la santé. On est en train de voir les aspects liés à la paix, justice, parce que ça se rapporte à l'ODD 16, parce que c'est lui qui se sent lésé, peut aussi recourir à la justice pour qu'on lui recouvre les droits appropriés, parce qu'en fait, il en a les droits. Donc, c'est vraiment interallié. Mais toujours est-il que, au niveau pays, c'est pas pour rien que nous avons différents ministères. Donc, nous avons un ministère lié à la santé, on a un ministère lié aux questions des genres.
Oui.
Chacun des ministères est en train de pousser l'agenda dans son sens, mais cependant coordonné par la primature, par tout un gouvernement. Donc, il y a aucun domaine qui doit être laissé en arrière, parce qu'en fait, tout doit évoluer au même moment.
Tout doit évoluer ensemble.
Ensemble,
voilà, merci beaucoup d'être là. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps de recueillir une question. Oui, monsieur, votre nom et puis quelle est votre préoccupation?
Moi, c'est monsieur César Mumbuza. Je suis coordonnateur national des réseaux des leaders religieux vivant avec le VIH/SIDA ou des leaders religieux affectés par le VIH/SIDA. Je voulais abondir par rapport à la réponse de Toussaint, par rapport à la criminalisation de la transmission volontaire du VIH/SIDA.
Oui.
Certes, dans notre loi, l'article 45 criminalise la transmission du VIH/SIDA. Mais sur le plan réalité, sur le plan concret, en santé publique, la responsabilité sexuelle des gens sont partagées. C'est-à-dire qu'une personne, quelle que soit son étation, il veut transmettre volontairement le VIH/SIDA. S'il trouve en face de lui une personne sexuellement responsable, qui connaît le VIH/SIDA, qui veut se protéger, la personne là ne va pas te transmettre le VIH/SIDA. C'est pour cela qu'on dit que nous tous devons être responsables. Cet article là a fait débat à travers le monde. C'est-à-dire qu'on pensait donner la responsabilité de la transmission qu'aux personnes concernées par le VIH SIDA. Oui. Donc, on s'est rendu compte que non, ce n'est pas seulement les personnes vivant avec le VIH SIDA qui sont responsables de la transmission. C'est pour cela, dans notre pays, on est en train de pousser. Pourquoi? Parce que les preuves, pour trouver les preuves de la transmission, ça pose un problème au nouveau pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez démontrer clairement que c'est elle qui a transmis à l'autre, c'est elle qui a transmis à l'autre. C'est oui. Pour cela qu'on se bat pour que cet article puisse être élagué. Mais dans notre loi actuelle, la criminalisation est condamnable. Mais trouver les preuves, c'est impossible. Et le plus important, c'est de renforcer la responsabilité et de celui qui a le VIH SIDA et de celui qui n'a pas le VIH SIDA, qu'on puisse être tous deux responsables pour la transmission du VIH SIDA. Voici ma réponse par rapport à ça.
Bien, merci. Merci beaucoup pour ces compléments. Nous allons tout à l'heure clôturer cette émission, mais nous allons quand même prendre quelques réactions dans la salle. Allez-y rapidement. Une ou deux.
Je me présente Mombo Kambujon, étudiant à l'université protestante au Congo. Ma question est adressée à Monsieur Benjamin Mouyebere. Ma question est celle de savoir qu'est-ce que l'État doit faire pour faciliter l'identification des séropositifs qui posent jusque-là certains problèmes. Qu'est-ce que l'État doit faire pour faciliter l'identification des séropositifs qui posent certains problèmes et pourtant le dépistage jusque-là est gratuit?
D'accord, merci. Identification, oui, madame.
Jeunesse Espoir, chargée de plaidoyer.
Oui.
Je reviens à notre thème de ce aujourd'hui,
c'est le droit,
à la santé.
Oui.
Un des intervenants a dit par rapport à la santé de qualité. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par santé de qualité. Et par rapport aux ODD, la question est posée à tout le monde. Comment est-ce que vous concilier les ODD par rapport aux objectifs du millénaire 90-90-90. Voilà ma question.
D'accord. Benjamin, on commence avec vous par rapport à l'identification.
Écoutez, à mon sens, tout gouvernement qui est responsable se doit de savoir quel est le profil de ma pauvreté, quel est le profil des problèmes que j'ai. Écoutez, l'accès lié à la santé, c'est lié aussi directement à la pauvreté. Aujourd'hui, quand les personnes ne savent pas aller à l'hôpital comme il se doit et connaître les vrais services liés à leur séropositivité ou plutôt séronégativité.
Oui.
Ça, c'est un problème.
En une seconde, Benjamin.
Ok. Donc, le gouvernement doit mettre des mécanismes, par exemple, mettre en place des réseautages pour faire en sorte que les séropositifs soient reconnus en tant que tels et soient suivis de manière assez
efficace. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers la République démocratique du Congo. Émission spéciale au Capi Service en direct du PNMLS ici à Kinshasa à l'occasion de la journée mondiale du SIDA. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe Sylvain Baougouéré sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À la prochaine.